a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil. A noter qu'il y avait peu de prises de parole politiques aujourd'hui à l'exception de celle d'écologistes et d'un membre du gouvernement. Alors pour rendre hommage à Jeanne d'Arc, environ 500 personnes ont défilé à Paris à l'appel du mouvement royaliste Action Française. C'était ce matin. On pouvait entendre dans le cortège des slogans comme Action Française, vive le roi, ou Jeanne d'Arc à Paris, abat la République.
Aujourd'hui, c'est le peuple patriote qui est réuni sous la bannière de l'héritage de Jeanne d'Arc.
Anti-républicain.
Il n'est pas une simple commémoration, une tradition nostalgique, mais une marche, une mobilisation constante malgré les embûches qu'une République chaque jour plus incapable dresse sur notre chemin.
Au micro de France Inter, on vient d'entendre Henri Beck, président du mouvement Restauration Nationale. Cette manifestation, la manifestation qu'il a organisée, a été rendue possible grâce à la levée par la justice de l'interdiction de la manifestation par la préfecture. Et c'est ce qui fait que l'on parle de cet événement politique. Sandrine Rousseau disait ceci ce matin sur BFM.
On interdit une manifestation d'extrême droite, non pas sur la base d'un droit ou pas à manifester. On interdit une manifestation d'extrême droite au nom des propos qui sont tenus par le mouvement qui organise. Là, en l'occurrence, l'Action française. Je suis sûre que si on regardait dans les archives de l'Action française récente, on trouverait bien des propos qui pourraient relever du racisme, qui pourraient relever de la haine de l'autre.
C'est le risque de trouble à l'ordre public, Madame Rousseau. C'est le risque de trouble à l'ordre public qui caractérise l'interdiction. C'est pas le fait que quelqu'un X années et dit quelque chose et qu'il soit toujours membre de cette organisation.
Je dis que l'action du Conseil d'État devrait porter d'abord sur les propos qui sont tenus dans ces organisations-là.
C'est le tribunal administratif,
la justice n'a même pas été saisie. Elle ne peut pas aller assez loin ou pas assez loin. Elle n'a pas été saisie.
Philippe Moreau-Chevrolet, il y a eu la manifestation au samedi dernier à Paris du comité du 9 mai. Les militants d'ultra-droite avaient défilé le visage caché portant des croix celtiques, ce qui avait déclenché une polémique. Ce matin, à nouveau, donc cette manifestation des royalistes. C'est la force de l'image qui a suscité les commentaires, car pour le reste, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public.
Alors la définition de d'ordre public ou du trouble à l'ordre public, elle est très difficile à établir a priori, d'où d'ailleurs les recours qu'il y a régulièrement contre les arrêtés interdisant les manifestations. Le problème, c'est qu'on a l'impression, du point de vue en tout cas des manifestants, qu'il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, on interdit préventivement avec des arrêtés qui sont très souvent retoqués par la justice, par le Conseil d'État. On interdit des manifestations anti-réforme des retraites. On va par exemple empêcher les gens d'utiliser des casseroles pour faire du bruit. On va les tenir très 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 loin des lieux où sont les ministres ou le président de la République. Et de l'autre côté, on laisse défiler librement des mouvements qui sont clairement néo-nazis pour ce qui était du mouvement précédent ou comme celui-ci clairement d'extrême droite, avec des choses qui peuvent relever du trouble à l'ordre public, comme le port de masque, c'est interdit pour plein de raisons, et le fait de donner des slogans nazis, ce qui est discuté, parce qu'on ne sait pas exactement si les slogans nazis en soi sont interdits.
Cette manifestation royaliste avait lieu au pied de la statue de Jeanne d'Arc, non loin de la place de la Concorde. C'est là que tous les 1er mai, sauf cette année, que le Rassemblement national se réunit. C'est une grande figure de l'histoire de France pour avoir repoussé les Anglais lors de la guerre de 100 ans. Jeanne d'Arc, elle est régulièrement donc célébrée par l'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'elle incarne, à son issue, à son insu, les valeurs de droite et surtout d'extrême droite?
Ça tient beaucoup à Jean-Marie Le Pen qui en a fait en quelque sorte un emblème. Alors il y a beaucoup de raisons, c'est une sorte de syncrétisme, Jeanne d'Arc. C'est quelqu'un qui a été appelé, donc qui a entendu une voix lui disant de chasser des étrangers hors du territoire français. C'est en quelque sorte la première personne qui a eu une vraie conscience nationale, si on veut, en tout cas dans le récit d'extrême droite. C'est quelqu'un qui était bergère, qui était donc quelqu'un de très modeste, qui a pris des habits guerriers pour chasser donc les étrangers et les Anglais à l'époque hors de France, qui est pucelle, donc qui représente une certaine virginité. C'est une sorte de Marianne d'extrême droite.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. La sécurité des élus en question après la démission du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, élu des Verts droite de la commune de Loire-Atlantique, rend son tablier sous la pression de l'extrême droite à cause de manifestations organisées notamment à l'appel d'un collectif proche du parti d'Éric Zemmour contre l'implantation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ses voitures incendiées, la façade de sa maison également, il a déploré un manque de soutien de l'État et cela a créé un électrochoc. Cette semaine, la députée écologiste Sandrine Rousseau dénonce l'absence de mobilisation de l'État pour protéger les élus menacés.
Les élus, on connaît les menaces. Moi, j'en reçois par exemple de nombreuses. J'ai déjà obtenu 3 condamnations par la justice de personnes qui me menaçaient soit de mort, soit de viol. Donc je veux dire, on les connaît, les menaces. On n'a pas besoin d'avoir un centre d'études. Ben, on a besoin d'avoir une mobilisation de l'État qui protège ses élus, c'est tout. Moi, par exemple, je n'ai bénéficié d'aucune protection, jamais. J'ai envoyé un dossier au cabinet de Gérald Darmanin qui m'a répondu par une lettre liminaire en disant qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir. J'ai même pas eu un entretien avec une personne des services de renseignement me disant quelle était la nature de la menace ou pas. Donc je n'en sais rien, en fait.
Pour le gouvernement, la prise de parole de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, sur France Inter.
Grande responsabilité de ceux qui ont attisé la haine, la querelle sur le projet qui était porté par ce maire et par ce conseil municipal dans sa ville. J'entends M. Zemmour aujourd'hui nous expliquer qu'il faut appeler à l'apaisement quand il y a un mois ou deux mois, il appelait à faire des manifestations et à s'opposer à ce projet de façon très véhémente, en tout cas par la voix et par le verbe. Je dis souvent, le verbe précède les actes. Et donc on a besoin de reconstruire quelque chose, d'un lien, d'un dialogue, d'un débat démocratique qui soit plus simple, parce que vous avez une implantation d'une autoroute, vous avez de la violence qui s'exprime et des gens qui viennent s'y opposer par des actes de violence, vous avez des sujets, on va peut-être en parler autour de l'eau, c'est la même chose.
Est-ce que c'est de même nature pour vous, les violences d'extrême gauche et d'extrême droite ?
Moi je ne qualifie pas politiquement la violence. La violence, c'est la violence. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise violence.
Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po. Le maire, qui était l'élu préféré des Français, est à son tour touché par la défiance envers les politiques.
Oui, ça fait quelques années qu'on constate des violences. Alors, ça a commencé par des insultes, beaucoup. Maintenant, il y a des violences physiques, il y a eu des agressions physiques de maires. Alors, c'est rarement pour des motifs politiques. C'est ce qui fait que l'affaire du maire de Saint-Brévin-les-Pins est un tout petit peu hors norme malgré tout. C'est souvent pour des affaires de revendications locales, de problèmes locaux et qui dégénèrent, de querelles qui ont été arbitrées parfois par la mairie. Donc on est rarement quand même dans des affrontements idéologiques, mais ça arrive. Et la preuve.
Les faits de violence physique ou verbale contre les élus ont augmenté de 32% l'année dernière, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'indique. Comment analyser ce mode d'expression du désaccord et de la contestation? Je parle donc des violences.
Oui, alors d'abord, il faut comprendre que la violence, avant d'être un motif, il faut la condamner, il faut la traiter judiciairement, pénalement, évidemment, et c'est très important pour des raisons d'exemplarité, mais c'est aussi une forme de communication. C'est la dernière forme qu'on peut utiliser. Pourquoi est-ce qu'elle monte, à mon avis? Parce qu'on a décrédibilisé toutes les autres formes de dialogue avec les politiques. Tout se passe un petit peu comme si parler à un politique ne servait à rien, ne produisait pas d'impact positif, comme si le dialogue lui-même n'était qu'une récupération, une façon de se mettre en scène, mais pas un authentique vrai dialogue. Donc j'entends ce que dit Marc Fesneau, il faudrait rétablir un dialogue avec la population, c'est urgent. Malheureusement, c'est un travail de fond et c'est un travail qui est extrêmement compliqué. Et plus le temps passe, plus c'est compliqué, parce que les positions, le fossé entre les politiques et les Français ne cesse de se creuser.
Autre chose, ce que dit Elisabeth Borne, il n'y a pas du tout de pause dans l'ambition climatique de la France. La Première ministre s'exprime ainsi après les propos tenus par Emmanuel Macron près de Dunkerque lors de l'annonce d'un plan pour réindustrialiser. Il ne faut plus ajouter de normes environnementales après l'application du pacte vert de l'Union européenne, plaidant pour la stabilité en la matière, a dit le président de la République. Ces propos ont suscité des interrogations à Bruxelles, la colère des responsables et militants écologistes, comme Marine Tondelier, qui est la chef du Parti écologiste. Elle était sur France 3 à la mi-journée.
Ce qui me trouble énormément, c'est de le voir parader à Dunkerque avec son grand plan industriel qui tourne quand même beaucoup autour de la bagnole, hein, qu'elle soit électrique ou pas, on peut en parler. On lui demande une pause, oui, mais c'était plutôt sur sa réforme des retraites. Donc je pense qu'il y a un petit décalage entre la pause que les Français lui demandent et la pause que lui fait. Il veut une pause européenne. La vérité, c'est que la justice européenne condamne la France pour inaction climatique, et ils ont raison de le faire. Condamne la France pour non-respect des normes sur la qualité de l'air, ils ont raison de le faire parce qu'il y a des morts chaque semaine en France à cause de la mauvaise qualité de l'air. Condamne la France pour non-respect du vivant, des règles sur les espèces protégées, les périodes de chasse où la France se revendique de faire ce qu'elle veut et de l'assumer. Donc oui, en fait, l'Europe, c'est bien un exemple là, est une force de rappel quand la France ou d'autres pays s'écartent de ce qu'il faut faire. Alors, pour le bien-être des citoyens.
Autre écologiste à s'exprimer, Sandrine Rousseau, donc sur BFM Télé.
On est est dans une situation extrêmement critique. Mais même ces mots-là sont faibles par rapport à la réalité de ce qui se prépare. On a 3 ans pour agir, on a 3 ans pour changer radicalement nos modes de production et nos modes de consommation. Et on fait comme si, et moi je qualifie Emmanuel Macron de techno-utopiste, on ne négocie pas avec les limites planétaires, on ne négocie pas avec le réchauffement climatique, on ne peut pas demander une pause au réchauffement climatique de 3-4 ans, enfin ça n'existe pas.
Emmanuel Macron annoncera demain l'implantation d'une usine de production de panneaux photovoltaïques à Sarreguemines lors du sommet Choose France à Versailles. Il s'agit d'un investissement de 1600 millions d'euros, 1700 emplois. Philippe Moreau-Chevrolet, c'est une stratégie de pouvoir et de communication, le retour aux fondamentaux, est-ce qui marche pour Emmanuel Macron, c'est l'Europe et donc l'économie avec ce plan industrie verte.
Ce qui marche bien, là, l'axe qui est suivi, c'est de parler aux classes moyennes et on va dire à tout ce qui est la droite traditionnelle. Pourquoi ? Parce qu'au Parlement, il n'a plus de majorité réelle. Il a besoin de la droite pour reconstituer une majorité. Et puis parce que c'est ce qui va probablement lui payer le plus aux prochaines élections, notamment les européennes, et après les municipales. Voilà. Il a un enjeu très très court-termiste qui est d'essayer de recomposer une majorité et il ne peut la trouver qu'à droite.
Et il essaiera bien évidemment d'en dire plus puisqu'il sera demain soir l'invité du journal télévisé de 20h sur TF1 pour reprendre la main après cette séquence de la réforme des retraites. Merci pour vos analyses et commentaires Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, invité de Dimanche Politique ce soir sur RFI.